With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes courtes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sap, chiffon,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une créatrice qui n'a plus rien à prouver. Vanessa Bruno habille les femmes depuis 1996 avec un style sobre et épuré, sans artifice, toujours en suivant l'air du temps. Elle ne suit qu'une seule inspiration en matière de mode, la sienne. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Qui est Vanessa Bruno?
Bah écoutez...
Vanessa, la femme.
Déjà, j'ai beaucoup de mal à me détacher entre. Je dis toujours. C'est drôle parce que quand vous posez cette question, je me détache de la marque, c'est-à-dire la griffe, ce que je fais et de la femme que je suis dans la vie. Ça, c'est vrai. J'essaye quand même de faire une ligne, de tracer une ligne entre les deux.
Qui est la femme Vanessa Bruno qui a créé la marque Vanessa Bruno? C'est plus simple.
Je pense que je suis tout simplement, je suis une femme de mon temps, je suis une femme qui aime la vie, qui aime ses plaisirs, mais qui aime aussi la regarder avec une certaine beauté. Et j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin d'avoir un regard qui traîne, qui s'inspire de choses et de le transformer en création. Et c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui fait que de moi, que je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Mm-hmm. Et je pense que depuis toutes ces années, ce qui fait que je continue à faire des collections, mais aussi à aller quelque part, à aller plus loin que ça, parce que j'ai fait des accessoires, j'ai fait des événements à côté de ça. Enfin, on ne fait pas que des vêtements, mm-hmm. C'est notre quotidien qui nourrit notre vie, on se fait sa vie, on crée son histoire. Et c'est ça que j'ai aimé faire et que j'aime encore faire.
Vous avez toujours rêvé de travailler dans la mode ?
Je suis tombée dedans et j'étais nulle à l'école et j'étais toujours passionnée par ça. J'étais passionnée par des images iconiques, j'étais passionnée d'aller dans les ateliers.
Votre maman avait un lien avec la mode, j'ai cru voir ça.
Ma mère était mannequin.
Mm-hmm. Je te tutoie, je ne sais plus ce que je dis.
Ma mère était mannequin, mais elle était surtout mère de famille, elle s'est occupée de nous. Mais elle m'a énormément inspirée parce que c'était quelqu'un qui nous amenait toujours en voyage, qui était quelqu'un qui adorait chiner. Et depuis toute petite, avec elle, j'ai parcouru des pays, j'ai chiné, c'était vraiment le road trip. Et j'ai découvert qu'avec elle, le regard sur les choses, sur les objets, sur les vêtements était très différent que si on devait rester dans son petit chez-soi. Et mon père, lui, c'est vraiment ce qu'on appelle un précurseur du prêt-à-porter, puisque lui, il fait partie de la génération de ces hommes qui ont créé le prêt-à-porter, comme l'était à l'époque, peut-être ça dit le nom, on va dire, Cacharel à l'époque.
Oui, bien sûr.
Qui existe aussi encore aujourd'hui, mais aussi des marques comme Dorothée Biss, et des marques comme à l'époque Sonia Riquel. Donc c'était vraiment ces gens-là, c'était les précurseurs de ce qu'on appelait le prêt-à-porter. Et là, pour le coup, moi, j'ai baigné dedans parce que c'était les copains à la maison, ça parlait que de ça, ça travaillait autour de ça, mais il y avait une vraie liberté. Enfin, c'était pas la même que l'on vit aujourd'hui.
Tu peux nous rappeler un peu ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, t'étais pas top à l'école, j'ai vu que t'as fait du mannequinat. Et après, comment tu t'es retrouvée? Finalement, tu t'es dit, voilà, je veux créer ma marque, j'ai envie de bosser dans ce secteur.
Je me suis fait la réflexion la dernière fois en me disant, mais finalement, ces influenceuses aujourd'hui qu'on prend comme des icônes, comment elles s'habillent, et finalement, ça devient presque des filles qu'on va prendre même pour faire du consulting dans des maisons. Ben, je pense que moi, avant mon temps, j'avais ça. C'est-à-dire que j'étais une fille qui incarnait ma mode, comment je m'habillais, je chinais, je prenais des vestes en tweed de mec que je prenais un peu oversize, je trouvais des jeans Oshkosh, je me trouvais des vieilles chemises trousseau. Ce que je veux dire, c'est que j'étais très inspirante. Et donc, quand j'arrivais dans des endroits en me disant « Ah, mais c'est super ce que tu portes, comment tu le portes et tout. » Et c'est comme ça, en fin de compte, que je me suis rendu compte. Évidemment, j'avais de la chance d'être dans un milieu qui était plus sensible à ça. Et donc, j'ai commencé à travailler, oui, en tant que mannequin, mais j'ai fait beaucoup d'essayages. Et ça, c'était génial. C'était un apprentissage. Je l'ai fait dès l'âge de 15 ans. Donc, j'allais déjà, au moment de, quand j'avais, j'avais plus court, je partais tout de suite. Il fallait que j'aille dans les ateliers. J'adorais traîner là-dedans.
Oui, tu étais sensible au tissu déjà, j'imagine, à la coupe.
À la coupe. Après, je suis partie un an pour passer mon bac à Montréal. Montréal, pourquoi ? On va pas refaire l'histoire. Enfin, je suis partie à Montréal parce que c'était une histoire d'une copine que j'avais rencontrée là-bas et je me suis dit, allez, pourquoi pas partir ? Et la mode m'a tellement manqué. Pour le coup, je n'étais plus comme je pouvais être à Paris, rencontrer des gens, chiner, que je faisais des allers-retours. Je prenais le bus et je partais l'autre côté de la frontière.
À New York.
J'allais, j'allais un peu plus haut vers les frontières. J'allais chiner dans différents endroits, et j'ai ramené plein de trucs.
Et déjà, tu avais un sens.
Ouais, j'avais vraiment un sens là-dessus, je pense, puisque je m'en rends compte maintenant quand même que ça a marqué. J'adorais les patchworks. Mais ça venait de ma mère aussi, comment elle m'a instruite. Et quand je suis revenue à Paris, mon père m'a dit, bon, bah, écoute, là, maintenant, il faut que tu fasses des études. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas. Et tout de suite, j'ai voulu travailler dans la mode et dans la création. Et là, mon parcours, ça a été, j'ai commencé chez Daniel Echter comme chef de produit. Après, je me suis occupée du studio avec la styliste sur place. J'ai fait beaucoup de freelance. Ça, j'étais, je ne sais pas comment j'ai pu faire. Le nombre de maisons, j'ai fait des freelances où je venais, où j'amenais des idées. Donc ça, c'est pareil. C'était à travers le réseau que je pouvais avoir et me faire, et puis le bouche à oreille. Et très vite, j'ai commencé ma marque. J'ai commencé un petit salon. Je me souviens toujours, c'était un couloir. J'avais 22 ans. J'avais un portant. Et mes premiers clients ont été les Japonais. Et c'est vraiment les Japonais qui, à l'époque, étaient vraiment dans cette recherche de la parisienne assez cool, qui ont aimé ce que je faisais. Ils m'ont commandé des vêtements, j'avais pas l'argent, je leur ai demandé de me payer en avance. Et petit à petit, j'ai commencé et j'ai démarré ma boîte. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore indépendante. Et c'est aussi, et beaucoup grâce à eux, qui m'ont donné quelque part ce coup de pied au départ pour un peu prendre mon envol.
Parce que les créatrices indépendantes, il n'y en a plus beaucoup, là.
Je ne crois pas, non.
Ta première boutique a été en 98, c'est ça ? Ou je me trompe ?
Elle est toujours, c'est Saint-Sulpice.
Est-ce que tu peux me parler quand même du sac Kaba ? C'est incroyable, cette histoire.
Ouais, non, c'est sûr, c'est une belle histoire.
D'où t'es venue ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est... comment t'es venue l'idée d'associer les paillettes à cette grosse toile ?
J'étais jeune maman, je me baladais comme je me balade toujours en vélo. Depuis toujours, je me balade en vélo à Paris et je mettais toujours des gros paniers. Et quand j'ai commencé, j'ai ouvert ma première boutique, donc comme tu le dis, en 96 à Saint-Sulpice, je voulais lancer un sac. Et pour moi, c'était évident. Je voulais une forme de cabas, de grand cabas. Je voulais une toile costaud. Donc, j'ai trouvé cette toile qui venait du Nord, qui sert. Ce sont les toiles à bateau, ce sont les toiles vraiment de canvas.
C'est incroyable.
Incroyable. Ce sont les toiles qui
servent. J'en ai eu un certain nombre. Donc, je peux.
C'est vraiment une technique de montage de canvas. Et comme il fallait amener quelque chose d'un peu ludique, je souhaitais qu'il y ait quelque chose qui correspondait aussi à ma vision de ce que je pouvais imaginer un sac. C'est là où j'ai mis des paillettes. Donc, j'ai commencé par des couleurs improbables qui étaient orange, le sac était orange avec des paillettes roses, le sac était vert kaki avec des paillettes violettes,
bleues,
vous voyez, voilà.
Je l'ai eu.
Voilà. Et je l'ai mis dans ma boutique, mais comme j'avais un premier partenariat avec des clients japonais qui continuent à me suivre, le phénomène, en fait, a commencé au Japon. J'ai commencé à recevoir, à l'époque, on recevait des fax, on ne recevait même pas des mails. Et je recevais des fax avec, tout d'un coup, ça a commencé, les commandes, ils en avaient commandé 10, ils m'ont commandé 20, après ils m'ont commandé 30. Je me disais, ah, mais c'est dingue. Et à Paris, ce n'était pas ça. Et moi, je me baladais tout le temps. J'avais mon cabas avec moi, partout où j'étais en vélo, partout où je m'arrêtais un café. J'avais ma fille derrière sur le siège. J'avais toujours quelqu'un qui me disait « Ah, mais c'est génial ton sac, c'est qui ?» Ben, j'ai dit ben, « c'est moi, moi. Je l'ai fait. » Et donc, il n'a pas pris la première saison. On m'a dit « Non, non, mais il faut l'arrêter, ça ne marche pas. » J'ai dit « Non, mais c'est quand même bizarre. » Tout le monde m'arrête. Mmh. Les Japonais, ça commence à bien marcher. Je ne vais pas l'arrêter comme ça. Mmh. Finalement, la deuxième saison, c'est là où il a pris. Les Parisiennes se l'ont complètement approprié. Et après, c'est devenu un phénomène.
Et de toute génération.
Toute génération. Et en plus, c'était vraiment un sac, pour moi, qui est une belle histoire, parce que c'est un sac, pour moi, qui s'est complètement démocratisé à tous les niveaux de différents styles de femmes.
Moi, je me souviens de ma fille au collège. Toutes les gamines de sa classe avaient le sac Vanessa Bruno. C'était le cadeau qu'on demandait aux anniversaires.
Ouais.
Ma mère, là aussi. Moi, je l'avais aussi, de toutes les tailles.
Ouais.
Et ça a été... C'est une force d'avoir fait ça. Toucher les plusieurs générations dans une même famille.
Je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose, bien sûr, qu'il y a une part de chance, mais il collait à l'air de son temps. Ça, il faut être clair, il collait totalement à l'air de son temps. Et c'est pour ça que j'y ai cru dès le départ. C'est que je pense qu'il avait ce côté extrêmement pratique, mais ludique en même temps, où c'est un espèce de fourre-tout. Et c'est vrai qu'il a un bon rapport qualité-prix. Donc, il connote vers quelque chose. Il est complètement fabriqué en France. Mm-hmm. Les gens, des fois, ne se rendent pas compte, mais c'est un produit 100% français.
Il faut le rappeler.
Ah oui, il faut le rappeler. Et depuis le début, il a toujours été fabriqué en France, de la toile à la paillette jusqu'à la fabrication. Et je pense qu'il a ce sac, il a quelque chose d'extrêmement... il y a une identification de presque de connivence familière qui se passe tout de suite avec ce sac. Et puis, comme j'avais compris qu'on pouvait jouer avec ce sac comme une toile de peinture, j'ai commencé à démultiplier les idées là-dessus. Je l'ai fait en cuir, je l'ai fait en daim, je l'ai fait en paille, je l'ai fait en toile avec des rivets, je l'ai fait en imprimé. Et donc, il y avait une telle multitude... que les filles l'appropriaient un peu comme « Ah, moi, j'ai trouvé celui-là. Mmh. Ah ben, moi, je l'ai trouvé celui-là. » Donc, c'était assez sympa et je m'amuse encore beaucoup aujourd'hui avec.
Et tu continues à faire avec des paillettes ou j'ai vu que tu faisais aussi avec des bandes de tissu?
Je fais, c'est-à-dire que je le fais avec du gros grain. Il faut quand même imaginer que ce sac, il a maintenant plus de 20 ans.
Oui.
Donc, c'est quand même un sac à qui j'ai dû raconter des histoires. Et à chaque fois, j'ai essayé de l'intégrer dans l'histoire de la collection. Ça, c'est très important parce que ce que je dis, si on veut raconter une histoire avec un sac, il faut savoir le sublimer.
Mm-hmm.
Donc, il y a l'iconique. Il va y avoir le paillette noir, cabas, toile noire. Mm-hmm. Très bien, tu peux avoir l'iconique. Mais tu as envie quand même de découvrir qu'est-ce que la créatrice va t'offrir pour la saison d'après. Et si tu es capable de l'ouvrir vers quelque chose d'autre et de lui raconter une histoire qui fait partie intégrante aussi de ton ADN, mais aussi du colorama de la saison. Mm-hmm. Par exemple, là, je l'ai fait en feutre.
Mm-hmm.
Je l'ai fait en feutre naturel, mais il est brodé en raffia. Donc, tu as le feutre et tu as le raffia. Et puis, après, au moment de l'été, je voulais le cabas qui soit fait en raffia naturel.
Mm-hmm.
Ça faisait très longtemps que je voulais le faire. J'ai mis, mais je ne sais pas combien de temps, j'ai dû mettre 4 ans avant d'aboutir le produit comme je le voulais. Je disais à chaque fois, non, c'est pas assez délicat, ça ne fait pas assez fait main. Et quand j'ai réussi à avoir ce travail magnifique que j'ai réussi à développer à Madagascar, auprès de gens incroyables qui m'ont développé ce produit, j'étais trop contente. Et depuis, ce sac aussi continue... de façon formidable.
Maintenant, qui est la femme Vanessa Bruno, celle que tu habilles?
Je pense que c'est plus un style. C'est un style de femme. C'est un style de femme d'abord, qui est une femme qui a besoin d'avoir des vêtements dans lesquels elle se sent bien. En même temps, des vêtements où elle a l'impression qu'elle est une femme contemporaine, moderne, mais une femme en même temps avec un esprit bohème, un esprit chic, nonchalant. Il y a aussi cette volonté dans ce que je fais, que ce sont des vêtements qu'on a envie de reporter. C'est-à-dire que je ne fais pas des vêtements, pour moi, en me disant c'est le phénomène de la saison ou ça va être une histoire d'un moment. J'adore l'idée qu'on reporte mes vêtements. D'ailleurs, quand je rencontre des femmes... Le nombre de fois elles me racontent leurs histoires d'amour avec les vêtements, c'est génial parce qu'elles me disent « Ah, mais cette robe, je l'ai achetée, je la garde encore, c'est celle-là avec qui j'ai rencontré mon mari. » J'ai toujours des histoires absolument très touchantes. Et surtout, voilà, moi, je pense que je suis plus dans un univers qui est vraiment la parisienne nonchalante, bohème, mais avec cette idée de pérennité dans ce que je fais et de qualité.
Mm-hmm.
J'étais une des premières, quand je parlais de mes vêtements, à parler d'un luxe abordable qui a été repris par d'autres marques, mais vraiment quand
plus que replié.
Plus que replié, mais moi j'ai toujours dit ça parce que je fais des vêtements faciles pour des filles et des femmes difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des vêtements qu'on peut s'approprier immédiatement, où on a du style, de l'allure, mais on n'est pas déguisé. Et en même temps, ce sont des vêtements avec un rapport qualité-prix où la fille, elle sait qu'on... Voilà, on l'a pas... elle achète quelque chose qui est vraiment qualitatif, mais qui a un prix qui est juste.
Oui, prix juste. Justement, tu parles de prix. Pourquoi tu as arrêté la ligne AT ?
Alors...
Qui était la ligne bis.
Qui était la ligne bis. Parce que je pense que dans l'univers de mode qui est devenu ces dernières années, il fallait que le message se recentre sur une seule ligne et qui devait être la ligne, qui devait être finalement la ligne, celle que je dessine avec mon nom. Et c'est devenu comme une évidence qu'il fallait arrêter la deuxième ligne. Ça a été un choix compliqué parce que ça a généré quand même un business très important. Mais j'ai dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrais pas me couper de cette deuxième ligne. Et que je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, dans l'idée que le curseur d'une cliente, elle était tout à fait capable d'acheter une chemise en voile de coton à 120 €, alors qu'elle peut acheter un manteau en cachemire à 645 €, voire plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport aujourd'hui entre, quand on dit ça, c'est un pull en cachemire ou ça, c'est un pull en coton, c'est pas les mêmes prix. Et quelque part, c'est cette offre-là que j'essaye aussi dans le panel de prix que j'offre, d'être juste. Mmh. Et ça ne nécessitait plus d'avoir une deuxième ligne.
Que penses-tu de la mode aujourd'hui ? Du marché de la mode ? Tout ce qui se passe en ce moment ?
Déjà, il y a une chose sur laquelle il faut être sûr, c'est que le fait que la mode a énormément démocratisé, moi je trouve ça bien, ça veut dire que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir du style. Et ça, moi j'ai toujours trouvé, quand les gens m'ont dit « Ah, Zara, catastrophe, et Cheyenne, catastrophe », j'ai dit « Ouais, mais je trouve ça plutôt sympa ». Qu'il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui peuvent comme ça s'approprier les looks et d'être dans le coup, quoi. Par contre, ce que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, c'est un discours qui part dans tous les sens. Et tu as des marques qui transforment ça en pur marketing, et je trouve ça complètement saoulant.
Mais avec le greenwashing, là, en ce moment, voilà. C'est quand même très saoulant.
Vraiment, c'est à se foutre de la gueule des gens, pour moi. Et d'ailleurs, moi, c'est très bien qu'on parle de ça, parce que moi, je sais que je m'adresse de façon très claire et très honnête avec mes clients. Et je ne vais pas leur raconter une histoire qui n'est pas une histoire qui est vraie. Donc, aller dire que demain, je vais passer tout, je suis éco-responsable par rapport, je sais d'où proviennent mes usines, je sais comment sont faites mes choses, mais je ne vais pas leur dire, c'est que du coton écologique, c'est que si. Et quand on me parle du polyester en me disant, il ne faut pas utiliser du polyester, mais des fois, le polyester... Enfin, j'utilise très peu de polyester, mais le polyester ne pollue presque moins des fois que certaines matières qu'on va faire des traitements. Donc les gens, il faut qu'ils soient bien conscients d'une chose. Et surtout, ça a un prix. Êtes-vous prêt à payer le prix ?
Merci de le dire. Ça, je crois que c'est important de le dire.
Voilà. Donc moi, je suis complètement là-dessus, mais je suis... Vous imaginez qu'aujourd'hui, mon cabas en raffia, il faut mettre 5 jours, c'est fait à la main, il faut mettre 5 jours pour faire le cabas. 5 jours. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle tisse la paille, elle le monte à la main, il pique les paillettes, il s'est passé 5 jours. Est-ce que les gens se rendent compte que ça, c'est le vrai luxe ? Mm-hmm. C'est fait à la main. Mm-hmm. Et ça...
Ça, c'est important de le dire.
Ça, c'est de l'éco-responsabilité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait nourrir des villages, des gens... voilà. Et c'est pour ça, quand les gens ils sont là à penser qu'un sac qui est fait en Inde à la main, c'est normal que ça ne vaut rien du tout. Mais non,
c'est pas normal.
C'est pas normal. Et ça, c'est très important que les gens soient conscients de ça.
Quel est ton style ?
Cool, non ?
Relax. Oui, cool, ça, je peux le dire, je le vois.
Non, mais ça veut dire que je n'aime pas, j'aime une sophistication, j'aime les choses sophistiquées, mais qui ont de l'allure et qui ont une certaine élégance naturelle. Voilà. Mm-hmm.
Alors, tu peux te décrire ? Comment t'es habillée, là, alors, pour chiffonner avec moi ?
Alors là, je porte un jean que j'adore, qui est une coupe, qui est un jean en plus. J'adore cette toile. Alors pour le coup, je peux le dire, c'est une toile qui a été fabriquée au Japon et qui est faite avec un indigo naturel.
Du vrai denim.
Du vrai denim. C'est un jean que j'ai fait il y a 2 ans. Je porte des boots que j'adore, que je ne quitte jamais, que j'ai fait il y a 3 ans. J'en ai floppé et je les remets en collection parce qu'au cas où vous n'auriez pas compris que c'est ces boots-là qu'il faut acheter, je vous les remets. Qui sont des boots sur lesquels ça donne juste la bonne hauteur pour porter le pantalon flair que je porte là avec 4 poches. et la petite boots. Et je porte un pull que j'adore, qui sont aussi un pull iconique, parce que je suis aussi pas mal connue pour ma maille, qui est un, en fin de compte un pull tweedé, mm-hmm. qui est fait en Irlande. Et c'est un pull qui est à base de cachemire et de laine naturelle. Et il a une très jolie couleur, parce qu'il a une couleur lilas. Mm-hmm. Et j'aime bien avoir de la couleur sur moi, parce que je trouve aussi que c'est une façon aussi de sourire à la vie.
Oh, c'est joliment dit.
Voilà.
Comment étais-tu, petite fille ? Plutôt robe à smoke ou garçon manqué ?
Plutôt garçon manqué, mais très indépendante, comme disait
ma mère. Déjà pour t'habiller.
Ah oui, très indépendante. Mais quand même coquette. Coquette dans le sens où je savais ce que je voulais. J'avais déjà beaucoup de chance. Ma mère travaillait pour... elle faisait des robes, elle faisait des patchworks. Parce que ma mère aussi a fait plein de choses pour un magazine à l'époque qui s'appelait... qui était un magazine où tu montrais comment faire dans les années 70, qui était assez incroyable. Mode des travaux. C'était genre mode des travaux. Et donc... Moi, je lui commandais des choses très précises. Donc, je savais ce que je voulais. Donc, elle se marrait parce que j'arrivais, je choisissais le tissu, mais je lui dis, tu me le fais, s'il te plaît, avec le smock, comme ça et comme ça. Heureusement, elle a gardé les photos, parce que malheureusement, je n'ai pas gardé les vêtements, mais elle a gardé les photos et ça me fait bien marrer quand je les vois.
Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire familiale dans ta famille ?
Ma mère est nordique. Donc, déjà, il y a une tradition vers les couleurs qui sont lumineuses. C'est-à-dire, même en hiver, les nordiques sont des gens qui... chez eux, vont mettre beaucoup de blanc, beaucoup d'écru. Ma mère est nordique et les nordiques sont des gens qui portent des couleurs très claires. Ils sont toujours en train de porter des écrus, des couleurs pastels. C'est vrai que ma mère, elle était... je trouvais qu'elle avait... Elle prenait du chic parisien, mais elle avait toujours ses codes à elle, qui étaient extrêmement lumineux. Mmh. Et je pense que j'ai gardé ça dans ma mode. C'est pour ça qu'on me dit souvent, il y a des couleurs tendres, il y a quelque chose d'assez féminin et lumineux, tout en étant androgyne. Je pense que c'est un mélange des deux.
Est-ce qu'elle t'a donné des conseils vestimentaires ? Est-ce qu'elle t'a dit, Vanessa, fais ci, fais ça, porte ci, porte ça, ou pas du tout ?
Pas du tout.
Je crois que j'avais l'impression que tu étais déjà assez libre. Hein, quoi.
Non. Elle me donnait pas des conseils vestimentaires. Et d'ailleurs, c'est fou. Je pense que la génération, ma mère, je vois, ne me donnait pas de conseils vestimentaires. Alors que moi, là où je pouvais être beaucoup plus embêtante avec ma fille, qui d'ailleurs a fait un rejet total, je peux plus rien dire.
Elle a quel âge ?
Elle a 24 ans maintenant. Mais elle a son petit style à elle que j'adore aussi. Et j'étais assez, je savais ce que je voulais.
Où trouves-tu l'inspiration pour créer, justement ? Parle de tes créations. Tu regardes beaucoup les femmes dans la rue ? Tu regardes sur Instagram, sur les réseaux sociaux sur,
Moi, je suis quelqu'un... Non, je ne regarde pas beaucoup les réseaux sociaux. Parce que je trouve que c'est un zapping qui me fatigue et qui n'est pas créatif pour moi. Mmh. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art contemporain. Je suis quelqu'un qui a énormément d'images iconiques que je recherche tout le temps. C'est-à-dire que je vais trouver des images qui sont des images des femmes des années 70, que je vais garder, que je vais ressortir. Mais surtout... Quand je démarre une collection, j'essaye de raconter une histoire autour d'une femme. Par exemple, l'hiver dernier, j'avais fait une collection autour de Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe, c'était pas seulement ses peintures, mais c'était le style de femme. Donc là, à partir de là, je vais raconter une histoire. J'adore, en fin de compte, plus créer mon univers de collection comme un storyboard. Mais après, je vais vraiment le mettre dans une idée de garde-robe. C'est-à-dire que je ne vais pas me la raconter en me disant « Mais attends, je vais faire une robe comme ça. » Je sais que c'est importable. » Par contre, je vais essayer de trouver ce qui va m'inspirer et qui va vraiment faire que ça va donner le ton dans quelque chose d'extrêmement délicat et portable ou avec une silhouette, une allure qui va twister l'histoire et qui va faire que je raconte un peu avec mes codes différemment autre chose et que la cliente a l'impression qu'elle voit. Et c'est l'idée d'ailleurs, qu'elle est complètement séduite par une nouveauté.
Que penses-tu de l'expression « être à la mode » ?
Je pense qu'aujourd'hui, ça veut un peu rien dire. Voilà ce que je pense.
Tout et rien dire.
Ça veut tout et rien dire. Parce que je pense que par rapport aux réseaux sociaux, il y a tellement d'extrêmes et tellement de styles.
Il y a tellement de styles et en même temps, si tu regardes les influenceuses, on a l'impression qu'elles sont toutes habillées pareil.
Oui, il y a ça. Et encore, j'ai envie de dire, elles sont habillées de façon caricaturale pour moi, parce que c'est presque qu'elles ont sorti leur garde-robe, parce que c'est le moment de la Fashion Week, et là, il faut sortir l'artillerie. Donc oui...
Est-ce que ce n'est pas un peu coupé de la réalité ?
Ah ben c'est clair que c'est coupé de la réalité, parce qu'il faut quand même se balader dans la vie. Il faut se rendre compte que ce n'est pas ça la vie. Après, je pense que c'est très important. Moi, je suis quelqu'un, je l'ai toujours dit, je ne me considère pas comme un créateur, je me considère comme une styliste. C'est-à-dire que j'ai un art de vivre, j'ai une façon d'imaginer ma mode. C'est un style. Et ça, c'est très différent. Et c'est très important d'avoir des créateurs. Mais tout le monde n'est pas digne de ce nom. Et moi, j'ai eu la chance, très jeune, de pouvoir faire des défilés, beaucoup de défilés, mais les gens ne se rendent pas compte. Je veux dire, quand vous voyez le premier défilé de Helmut Lang à l'époque, c'était merveilleux. Quand vous voyez les premiers défilés de Mucha Prada, Miu Miu, c'était incroyable. Même les premiers défilés de John Galliano quand il est arrivé à Paris. Et cette vision-là, elle est très importante aussi pour la création. Donc, il ne faut pas l'enlever. Mais ce qui se passe aujourd'hui, de dire « on est à la mode, on est dans le coup », moi, je trouve que c'est un peu une caricature. Voilà. Je suis très sensible aux femmes qui ont de la personnalité par rapport à leur façon de choisir la mode. Voilà. Je suis beaucoup plus sensible à ça.
C'est un conseil que tu donnerais à une femme qui ne sait pas comment s'habiller ?
Ah ben, le premier conseil que je dis aux femmes, vous devez vous habiller avant tout par rapport à votre personnalité et à votre physiologie. C'est-à-dire, tout ne vous va pas. Ce n'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs ce que je dis aux filles, aux femmes qui travaillent avec moi dans les boutiques. J'ai dit, vous devez considérer que chaque femme a sa sensibilité. C'est une approche hyper importante pour elles de se sentir belle. Elles doivent se sentir belles. Vous ne pouvez pas leur mettre des choses qui ne leur vont pas. Ça, c'est très important. Il faut qu'au niveau...
Il faut être honnête.
Il faut qu'au niveau du respect du corps et de la vision de la silhouette. Et c'est pour ça que je dis souvent aux femmes, quand vous avez trouvé le bon pantalon, gardez-le. Parce que ça veut dire qu'il vous fait des jolies jambes, des jolies fesses.
Je me fais l'avocat du diable. Ouais. Hein. Je parle au nom des auditrices. Malheureusement, souvent, une marque ne reste pas souvent longtemps fidèle à une forme précise de pantalon.
Oui, mais par exemple, quand il y a eu l'époque du slim, ça a été une catastrophe.
C'est une aberration,
le slim. Il y avait des filles qui portaient des slims. J'avais envie de dire, non, les filles, ce n'est pas possible, quoi. Mais on ne peut pas le dire. OK. En attendant, bien sûr que le slim peut être... quelque chose qui est un phénomène. Je ne peux pas dire que je n'avais pas de slim, mais la façon dont je faisais mes slims et la façon dont je l'amenais dans ma collection, je le mettais aussi avec une idée de grande veste oversize, avec des grands pulls qu'on pouvait mettre. Donc, je leur apportais
Caché aussi un petit peu, je leur apportais
une silhouette qui faisait que ça devenait cool de porter le slim avec la bonne paire de boots. Mais ce n'était pas le slim qui devenait le truc où j'avais envie de dire « Non, ce n'est pas possible, quoi. » C'est monstrueux. Donc, c'est aussi une façon d'apporter du bon goût. Plus que la mode, d'être dans le coup, j'ai envie de dire, il faut être dans le bon goût.
Quel rapport entretiens-tu avec ton dressing ? J'imagine que c'est 80%, 90% de Vanessa Bruno ?
Ouais. Et le reste, c'est des choses que j'ai chinées, que je garde précieusement, qui sont vraiment des pièces que j'adore. Même si je suis tout à fait capable de reconnaître des pièces sublimes que je peux voir chez certains designers, il n'y a pas de problème. Non, j'ai réellement un vestiaire que je garde depuis des années, des pièces que je garde précieusement. Je prends chez moi, dans la saison, quelques pièces qui viennent refaire ma silhouette, mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui scratche ma garde-robe et qui repasse par l'autre côté et qui dit « non, ça, j'en veux plus ». À tel point que j'ai tendance à donner à ma fille ou à ma belle-fille des vêtements. Elles me disent à chaque fois « Ah, mais t'es gentille ». Je dis « Au moins, je suis sûre que ça reste entre nous ».
C'est une histoire de transmission.
Ouais, voilà.
Alors, le matin, tu passes plus de temps devant ton dressing ou devant le miroir de ta salle de bain ?
Ah, le matin, c'est un moment très important pour moi. C'est le moment où on se met dans la situation de travail. Donc déjà, je me suis fait une salle de bain où j'adore être dans ma salle de bain. Et je passe surtout du temps à me faire plaisir, c'est-à-dire prendre soin de moi. Et je m'habille, mais quand je m'habille vite.
Parce que tu sais déjà ce que tu vas porter.
Ouais. J'ai très vite, c'est instinctif chez moi.
Alors justement, quel est le vêtement que tu ne porteras jamais ?
Un corset.
Ah ouais, c'est
pas un vêtement, mais déjà, voilà, à la base, ça c'est un truc... voilà, même si je comprends que pour des femmes, ça peut être très beau pour certaines femmes. Un vêtement que je ne porterai jamais.
tu n'es pas obligée de répondre. Hein.
Ouais, je ne sais pas, des... J'ai une espèce de jogging rose moulant, des trucs comme ça, quoi.
Oui, mais là, c'est l'extrême.
Ouais, je sais pas. Okay. Non, je sais pas. J'ai pas de comme ça de trucs qui me. Je peut-être parce que j'y fais pas vraiment attention.
Et quel est le vêtement dans lequel tu te sens absolument irrésistible?
Je pense le conseil que je donnerais toujours à une femme, c'est la pièce dans laquelle on se sent toujours bien, c'est soit une robe, soit le bon pantalon avec une belle chemise.
La robe, c'est pas évident parce qu'il faut trouver les bonnes chaussures aussi.
C'est vrai. C'est vrai. Si ce n'est que la bonne robe, ça peut être mis avec différents styles de chaussures. Et ça veut dire que c'est la bonne robe.
Ah, ouais. Bon conseil. Tiens-tu compte du regard des autres ?
Je crois pas. Vraiment, je crois pas. Je le dis sincèrement.
Tu es une femme libre.
Non, je crois pas. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à avoir confiance en moi.
Ah, c'est important de parler de confiance. Comment tu as fait pour avoir confiance en toi ?
Je dis toujours cette phrase qui sonne mieux en anglais, que j'ai pas bien appris au début, qui dit « Be good to yourself ». Sois gentil avec toi-même. Mm-hmm. Et je pense que pendant des années, j'étais un peu brutale avec moi-même, jamais en confiance, ça n'allait jamais, c'était pas assez bien. J'étais plutôt que dans ce truc-là. Et ces dernières années, j'ai dit « Maintenant, arrête, apprécie ce que tu fais, apprécie le moment. » J'allais dire au pic de ma célébrité, quand j'étais dans les défilés, la folie, les interviews non-stop, je n'arrivais même pas à l'apprécier.
À partir de quel âge tu t'es dit « je vais essayer de m'apprécier telle que je suis »
Quand j'ai décidé d'arrêter les défilés.
À ce point-là?
Oui, parce que je me suis dit « maintenant
c'était
ça
en quelle
suffit.
Année ?»
C'était en 2016.
2016 ouais, 4 ans. Suis...
Ouais, 2015 peut-être, pardon. Non, pardon. Oui, ça doit être ça. Mm-hmm. Et je me suis dit « ça suffit, j'ai plus rien
à prouver. »
J'ai plus rien à prouver, j'ai plus de vie, j'avais plus de vie. Je bossais tout le temps. Et donc, l'exigence que j'avais sur moi-même pour arriver à sortir les collections au rythme qu'il y avait, je le reportais aussi sur les autres, ce qui est quand même un stress énorme. Et à un moment, j'ai dit, mais c'est pas ça la vie. Mm-hmm. C'est pas ça. Et puis en plus, ma cliente n'attend pas de... Elle attend de voir une belle collection avec des drops de livraison par saison. Mais toute cette énergie que je portais à soi-disant aboutir ma création devenait complètement, pour moi, too much. Mm-hmm. Alors que je voulais reprendre le temps de bien faire les choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, ah non, mais sois un peu plus gentil avec toi-même. T'as fait des belles choses. Maintenant...
Sois fière de toi.
Sois fière de toi. Et surtout, continue à bien les faire et à prendre le temps de les faire avec plaisir. Et que tes équipes autour de toi aussi rentrent dans cette bienveillance, entre guillemets.
Est-ce que tu te mets des interdits vestimentaires avec l'âge? Voilà, alors 40 ans, plus de mini-jupe, 45, plus de shorts, 50.
Non, mais c'est comment je vais les mélanger. Je suis beaucoup moins à l'aise aujourd'hui. Je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec les décolletés aujourd'hui. Mmh. J'étais beaucoup plus à l'aise avant, mais maintenant, je ne suis pas quelqu'un, je ne vais pas me mettre avec un décolleté. Tu ne me verras pas avec une robe colvée. Mmh. Je suis moins à l'aise avec ça. J'aime mieux la robe qui va être une encolure un peu soit ronde, soit légèrement évasée. Mais voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je trouve que le colvé à mon âge est un peu moins percutant. Mmh. Enfin, je sais pas, je me sens moins à l'aise. Mmh. C'est le seul truc que je pourrais dire.
L'accessoire est-il important pour toi, pour finir ton allure, ton look ?
Toujours. J'ai toujours travaillé mes accessoires en parallèle de ma
silhouette. T'as une ligne de bijoux aussi ?
J'ai une ligne de bijoux. C'est pour ça que très vite, j'ai tout de suite fait mes chaussures, j'ai tout de suite fait mon sac. Parce qu'en fin de compte, et ça c'est vrai, une silhouette, une allure n'est bien finie qu'avec tout ce qui va sur la silhouette. C'est-à-dire, tu prends ton manteau, t'enfiles ton sac, tu sors de la maison... Tac, c'est là. Il faut que tout soit juste. Enfin, à mon goût, en tout cas à moi.
Tu restes fidèle à tes sacs, à ton sac ?
Ah oui, oui, je reste fidèle à mon sac. Ah oui, sans problème, je le prends toujours avec moi. J'ai mon lin kaki paillette que je dois trimballer dans tous mes voyages, sur mon sac, sur mon vélo, je veux dire.
Quel est ton dernier achat ? Vestimentaire, hein ?
Waouh. En dehors de... Ben oui, ils n'ont pas chez moi, bien sûr.
Ah, tu t'achètes tes propres femmes, Vanessa Bruno, non, tu arrives en boutique.
C'est la chance que j'ai. Mon dernier achat. Ah, bien sûr. Mais je l'ai fait plus pour le travail. Alors, ça, vous allez, tu vas me dire, c'est pas juste. Non, j'étais justement... j'ai chiné le week-end dernier et j'ai trouvé des très belles blouses victoriennes. Très, très jolie. Donc, voilà, c'était mon dernier achat. Mais quand je les achète, en général, si on a une ou deux qui me vont, je les garde aussi pour moi. Donc.
Et ton prochain achat ? Est-ce que tu as un truc en tête ?
Ça ne serait pas vestimentaire, hein, pour le coup.
Ah oui. Mais... Allez, tu peux nous le dire ? Un meuble.
En vérité, c'est encore une fois, c'est un meuble que j'ai chiné, que j'adorerais avoir. Une très belle console. Mmh. Voilà. Mais bon, pour l'instant... C'est pas dans le... Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai chiné, oui, ça c'est sûr.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Je trouve que le mot sonne mieux en anglais, effortless.
Tout est dit. Une seule réponse. Si tu étais une couleur ?
Écru.
Si tu étais une forme de pantalon ?
Pantalon d'homme.
Si tu étais une chaussure ?
Une boots.
Si tu étais une matière.
De la soie.
Si tu étais un vêtement, tout simplement.
Une blouse.
Si tu étais un sous-vêtement.
Un caraco tout simple en soie.
Si tu étais un accessoire de mode.
Un cabas.
Si tu étais une héroïne.
Alors là... Bonne question.
Tu peux dire joker. Hein.
Ouais, joker.
Un adjectif qui te caractérise.
Un adjectif qui me caractérise. J'ai souvent entendu femme forte. Bon. Mais je me trouve un peu douce aussi.
Je dirais libre.
Libre, oui. Mais surtout, je parle souvent d'esprit libre dans ce que je fais.
Merci infiniment, Vanessa.
Merci.
Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et surtout, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.